Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Okapi Service. Comment éradiquer les maladies tropicales négligées d'ici 2030? C'est le thème que nous abordons dans la première partie de l'émission d'aujourd'hui. Nous recevons pour en parler le docteur Delphin Kachelewa, expert en gestion des projets de santé et en gestion stratégique des programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées. Il est également impliqué dans plusieurs années dans la conception et la mise en œuvre de ces programmes en RDC. Docteur Kachelewa, bonjour.
Bonjour, chère Jocelyne. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Okapi Service.
Également dans ce studio, docteur Diane Kaningini, experte en MTN, maladie tropicale négligée. Bonjour, docteur Diane.
Bonjour, madame, et bonjour à la RDC.
Merci. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons madame Thérèse Kirongozi pour notre deuxième thème, comment encourager les filles dans les filières STEM, sciences, technologies et ingénierie mathématiques. Pour participer à cette émission, contactez-nous au 085 42 11 547 85 42 11 547. Paul Badianyama est à la mise en onde de cette émission, Benjamin Moudoumbi à la réalisation. Je suis Justine Moussaoufondé.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Les maladies tropicales négligées continuent de toucher des millions de personnes à travers le monde, en particulier dans les pays en développement. En République démocratique du Congo, elles affectent surtout les populations les plus vulnérables, vivant dans des zones rurales ou périurbaines, avec un accès limité aux soins de santé, à l'eau potable et à l'assainissement. Bien que souvent évitables et traitables, ces maladies restent qualifiées de négligées, faute de visibilité, de ressources suffisantes et parfois des priorités claires dans les politiques de santé publique. Pourtant, la communauté internationale s'est fixé un objectif ambitieux, éradiquer ou éliminer plusieurs de ces maladies d'ici 2030. Face à cette échéance, des questions essentielles se posent. Où en est la RDC aujourd'hui dans la lutte contre les maladies tropicales négligées? Quels sont les défis à relever pour atteindre l'objectif de 2030? Et surtout, quelles stratégies concrètes peuvent permettre de protéger durablement les populations? C'est le thème de la première partie de votre émission Capi Service d'aujourd'hui. Nous recevons donc le docteur Delphin Kachelewa et docteur Diane Kaningini, tous deux experts en maladies tropicales négligées. Pour commencer, nous commençons avec docteur Kachelewa. Que recouvre exactement l'expression maladie tropicale négligée, docteur Kachelewa?
Merci beaucoup, chère Jocelyne Moussaou. Merci à tous les auditeurs qui nous accordent le temps. En fait, on va essayer de discuter autour de ces maladies. Les maladies tropicales négligées, c'est l'ensemble de toutes les pathologies qu'on trouve dans les pays ou les contrées. Sur le plan géographique, se trouve sur le tropique. C'est pourquoi on peut être tropical, parce que les zones qui ne sont pas tropicales ne souffrent pas de ces maladies. Alors, c'est les maladies des zones se trouvant sur le tropique, bien sûr, en respectant la géographie du monde. Et pas seulement la localisation qui définit cette maladie, il y a aussi certains autres aspects qui les définissent. Genre, c'est les maladies de l'arrière-pays, c'est-à-dire les maladies de contrées non entretenues, parce que l'environnement s'y prête. C'est l'ensemble des maladies de la pauvreté, de la précarité et de la souffrance, s'il faut le dire.
Ça n'a rien à voir avec le climat, parce que c'est situé dans les zones tropicales.
Oui, effectivement, si l'environnement est entretenu et assaini, le climat n'aura plus d'impact. Pourquoi ? Parce que c'est l'homme qui devrait avoir l'intelligence d'exploiter l'environnement qui est favorisé par le climat. Donc, du coup, le climat intervient parce que le climat interviendra toujours. Mais c'est à l'homme congolais d'être intelligent, de savoir que dans ces climats, comme on est dans les tropiques, il faut assainir l'environnement. Il faut faire ceci, cela. Voilà, on peut bien lutter contre maladie. Donc, en bref, c'est l'ensemble de toutes ces maladies de l'arrière-pays. On appelle souvent les maladies des villages mal entretenus, de contrées mal assainies.
Et docteur Diane, quelles sont les principales maladies tropicales négligées présentes en RDC aujourd'hui?
Merci, madame Jocelyne. Merci Madame Jocelyne. La RDC est endémique à plusieurs maladies tropicales négligées. Nous avons déjà dès le départ, si on peut mieux le définir et les scinder, nous avons les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. Ce sont ces maladies-là où on va dans la communauté pour traiter une masse de la population. Nous avons également, et là ils sont au nombre de 5, nous avons ce qu'on appelle l'onchocercose ou la cécité de rivière. Nous avons la filariose lymphatique qui entraîne l'éléphantiasis. Nous allons le voir dans la suite. Nous avons les géosalmintiases, les vers intestinaux couramment, comme on appelle couramment. Nous avons les trachomes. Et enfin, les schistosomiases humaines africaines, qu'on appelle couramment bilharziose. Ça, ce sont les 5 maladies MTN, comme on les appelle, CTP, à chimiothérapie préventive. À part ce groupe de maladies tropicales, nous avons aussi les maladies tropicales à prise en charge de cas. Donc nous traitons au cas par cas. Entre autres, nous avons la lèpre, dengue, leishmaniose et autres. Et toutes ces maladies-là, la RDC est endémique, c'est-à-dire, en des termes plus faciles, ces maladies se vissent dans notre pays.
Et pourquoi sont-elles qualifiées de négligées? Parce que ces maladies touchent quand même plusieurs personnes. Pourquoi les qualifier de négligées?
Il y a plusieurs raisons. Déjà, premièrement, comme docteur Delphin venait de le dire, on le retrouve, comme on dit, les villages abandonnés. C'est souvent les pays, les pauvres. Ce sont les populations pauvres, démunies. Également, la communauté internationale ne s'y intéresse pas beaucoup. Mais aussi, il n'y a pas que la communauté internationale, il y a également le gouvernement congolais qui ne donne pas assez de financement pour ce maladie-là. Alors, il semble porter le nom des négligés parce qu'effectivement, elles sont négligées par la grande communauté internationale, par notre pays, et c'est souvent, ils sévissent souvent dans les milieux pauvres, de la population un peu démunie.
Et qu'est-ce qui peut justifier cette négligence, justement, des politiques publiques?
Voilà, pour éviter d'être beaucoup plus politique, on va dire que...
On parle de la communauté internationale, on parle du niveau national aussi. Pourquoi il n'y a pas autant d'intérêt pour ces maladies?
Bon, il faut dire, je vais me faire compléter par docteur Delphin, mais il faut dire que ces maladies-là sont, comme docteur Delphin l'avait dit, se trouvent dans les milieux tropicaux, c'est dans la région tropicale. Malheureusement pour nous, ou heureusement pour les Occidentaux, ce sont des maladies qui ne migrent pas vers les pays occidentaux plutôt. Ce qui fait qu'ils ne s'y intéressent pas beaucoup, comme le sida ou autres qui peuvent...
Qui les touchent également directement.
Oui. Il y a cette raison-là. Mais il faut se dire aussi, il n'y a pas eu un grand... je peux dire, on n'a pas fait assez de bruit là-dessus. Parce que je suis sûre que, madame, c'est seulement aujourd'hui ou peut-être dans pas longtemps que vous aviez entendu parler des maladies tropicales négligées.
Il y a quelques années quand même, hein, plusieurs années quand même. Pour mon cas, en tout cas.
Oui, bah, parce que vous n'êtes pas le commun de mortel. Mmh. Mais pour le commun de mortel, on n'y prête pas beaucoup attention. Il n'y a pas assez de bruit autour de ces maladies-là qui font que les gouvernements et les décideurs s'y intéressent. Et que donc, on a fait un plan directeur maintenant, on le verra dans la suite, pour essayer de mobiliser le fonds pour combattre ces maladies.
Mmh. Merci. Docteur Kachelewa, pourquoi cette négligence? Est-ce qu'on peut avoir d'abord les chiffres? Quelle proportion de la population est touchée par ces maladies en République démocratique du Congo?
Bon, au fait, je vais commencer par paraphraser Docteur Diane.
Mmh.
Aujourd'hui, on se dit plus de 617 millions de personnes en Afrique vivent dans les zones endémiques à ces maladies tropicales négligées.
Mm-hmm.
Je ne dirais pas malheureusement. Aujourd'hui, la RDC compte plus de... Sur une vingtaine que l'OMS trace, la RDC était endémique à toutes ces maladies. Mais avec l'évolution, on a éliminé quelques-unes, on a éradiqué et on contrôle quelques d'autres. On reste autour de 14 maladies tropicales négligées. Pour vous dire que la richesse dont il est question pour la RDC, y compris la prolifération des agents pathogènes. Donc, alors, aujourd'hui, on se dit, en Afrique, plus de 600 millions de personnes sont dans des zones endémiques. Mmh. Et en RDC, c'est plus de 410 millions de personnes qui sont dans les zones endémiques. Plus de 400 millions.
C'est pas rien.
C'est beaucoup, oui. Parce que ça représente quelle quantité de suffrage? En fait, ça la question. Mmh. Si c'était pratiquement allé dans ce sens-là. C'est un grand nombre d'électeurs qui sont exposés à ces maladies. Négligés, pourquoi? Parce que ceux qui en meurent ne sont pas ceux qui vivent directement dans nos maisons. Je m'imagine, Madame Jocelyne, aujourd'hui, votre fille fait les Jeux Elmentiaz. Je pense que vous ne viendrez pas au studio.
Mm-hmm.
Vous serez la première à l'amener à l'hôpital. Alors qu'aujourd'hui, vous arrivez à Kachobwe, vous arrivez à Mitouaba, vous arrivez à Ndekecha, ou à Mikopé, à Njokopunda, vous trouvez les enfants qui vous font les géoselmentias de manière répétitive. Vous voyez ça? Alors, vous comprenez que arriver à décaisser avec la rivière qui passe autour, c'est
de... Mais est-ce que ces maladies ont de noms simples aussi, hein? On va dire vers intestinaux.
Ouais, les vers intestinaux qu'on appelle les géoselmentias, les vers intestinaux, d'autres les misanda,
voilà.
Les nyamalibumu, tout ça
fait,
là.
Ouais.
C'est au fait ça là. Mmh. Alors, on parle de négliger, pourquoi? Parce que, en fait, premièrement, ça frappe les personnes qui n'ont pas les moyens, qui vivent dans des contrées négligées et oubliées. La preuve est que, pour que quelqu'un visite Dékissé, il faut qu'il y ait une vacance parlementaire, qu'il y ait la campagne électorale, c'est ainsi que vous verrez des personnes en veste, comme vous, descendre à Dékissé, pour aller mobiliser les gens. Et là, on amène un peu de médicaments. Et pourtant, ces maladies constituent le quotidien des Congolais dans ces contrées. Mmh. Tu vois ça? Le négligé dont il est question, c'est le manque d'engagement, le manque de détermination, le manque d'attention. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de dire merci pratiquement à la Radio Okapi qui accorde cette opportunité aux Congolais de comprendre que la lutte contre les maladies tropicales négligées n'est pas l'affaire du gouvernement uniquement. C'est l'affaire de tout le monde. La meilleure façon pour la communauté s'en approprier, c'est d'en parler et d'en revendiquer le remède, au fait. Mmh. Donc la négligé dont il est question, c'est le fait qu'il n'y a pas assez d'énergie, assez de ressources, assez de communication et assez d'engagement pour les décideurs qui ont pris notre destin en main, en fait, pour nous guider.
Comment éradiquer les maladies tropicales négligées d'ici 2030? C'est le thème de l'émission Capi Service d'aujourd'hui. Et nous en parlons avec Dr Delphin Kachelewa et Dr Diane Kaningini, experts en maladies tropicales négligées. Pour participer à cette émission, vous pouvez nous joindre au 0825 42 11 547. 0825 42 11 547. Dr Kachelewa, parlons de la lutte contre ces maladies. C'est vrai qu'on n'y accorde pas beaucoup d'attention, mais je crois qu'il y a quand même des actes qui sont posés sur terrain. On peut parler de l'état actuel de cette lutte contre les maladies tropicales négligées en RDC.
65 ans plus tard, il y a de quoi se regarder dans les yeux, se poser la question, qu'est-ce qui est fait? On ne va pas dire merci au gouvernement parce que ce sont devoirs de garantir
c'est
notre
santé.
C'est
dans ses prérogatives.
Dans ses prérogatives, en tout cas. Rédévabilité. Mais depuis ce sont 5 ans, on se rend compte que la RDC n'a plus saigné comme c'était le cas. La santé publique, il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, elle nous a beaucoup aidé à comprendre, à savoir et à mettre en place des stratégies des politiques qui aideraient à juguler telle ou telle autre pathologie. Aujourd'hui, on ne parle plus de la peste, hein. On parle moins de la leishmaniose. On parle moins de la dengue. On parle de ceci, cela. Pourquoi? Parce que, à cause d'une, grâce à une politique bien stratégique, la RDC a bien jugulé certaines maladies. Mais cela n'est pas tout, parce que sur 20 maladies tropicales négligées, aujourd'hui, on peut se dire, on a contrôlé 5, 6 ou 7. Mais il y a encore plus de la moitié qui nous tue. Qui tue nos mamans? À Kanyabayonga, qui tue nos parents? À Nyirangongo, vous voyez ça? Alors, du coup, on ne va pas dire qu'on n'a rien fait. Mais on a encore du chemin à faire. Raison pour laquelle l'échéance jusqu'au 30, jusqu'en 2030, oui, c'est un aveu des déterminations que les nations, parce qu'il n'y a pas que la RDC, hein, l'Amérique latine en souffre, l'Asie de l'Est en souffre, l'Afrique n'en parlons pas. Donc nous sommes nombreux qui sommes dans ça. Mais la différence, c'est que dans d'autres pays, il y a d'énergie que les partenaires et les responsables pays mettent en jeu pour sauver leur population. C'est comme la mortalité en RDC est un peu très élevée par rapport à d'autres pays. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? C'est que, je prends l'exemple de la dengue, une maladie déjà éradiquée en RDC. On prend la lèpre, déjà éradiquée. Mais on ne va pas se contenter d'en éradiquer une sur une vingtaine. Pendant qu'il y a encore 14 qui sont en train de nous assujettir. Ce qui fait que nous nous donnons sur 100%, on peut avoir fait 35% de marche. Alors donc, du coup, on a encore du chemin à faire. Et il y a encore les 5 maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive qui continuent à nous ronger. Mais on néglige pas l'apport de certains partenaires, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il y a des campagnes qui se font, où on donne gratuitement les médicaments aux communautés. Ce n'est pas rien, c'est quelque chose, il faut le reconnaître.
Mais est-ce qu'il faut attendre tous des partenaires, docteur Kacheliwa? Ça nous touche directement, ça ne touche pas les autres, c'est à nous de réagir.
Nous ne cessons jamais de le dire. Toute lutte tournée vers l'extérieur peut faire entrer même les adversaires. Je pèse bien les mots. Toute lutte tournée vers l'extérieur peut laisser entrer même les adversaires. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Les adversaires, c'est pas seulement ceux qui viennent nous combattre, même l'insuffisance de fonds, c'est un adversaire. Raison pour laquelle ces communications que nous faisons aujourd'hui, c'est une conscientisation des leaders, des décideurs, de comprendre que aujourd'hui, pour terminer les maladies tropicales négligées en RDC, ça demande moins de 120 millions de dollars. Moins de 120 millions de dollars pour arriver à éradiquer les maladies tropicales négligées en RDC en 2030. Le plan directeur existe. Alors, est-ce que doit-on attendre le 120 millions?
Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que le plaidoyer n'est pas bien mené?
Est-ce que faut-il que le plaidoyer soit bien mené? Parce que la maladie est une évidence, on voit les cas qu'on enterre. Quelle est l'autorité qui n'a pas encore perdu son neveu ou sa nièce de suite de l'oncocercose? Qui des députés n'a pas encore perdu son grand-parent de suite de l'éléphantiasis? Ils sont nombreux. Par contre, malheureusement, on se tourne, quand on n'a pas besoin de trouver de solution, on se tourne vers les sorts. On essaie de mettre du métaphysique dedans. Et pourtant, c'est pas ça. Ouvrons l'intelligence. Aujourd'hui, le plaidoyer n'a pas besoin d'être bien fait. Parce que les maladies sont une évidence. Elles tuent. Nous enterrons. Chaque fois qu'on vous appelle, nous envoyons l'argent du cercueil. Il est mort de quoi? Non, Libumu et Vimbaki, et puis Banyamekomi, Banyana Libumu. Ce sont des gens Mbasu. C'est tout, Babakali et Potaso Kianini. C'est une perception qu'on appelle une perception de bassesse de réflexion. Parce que l'évidence est là. On doit trouver le médicament et on doit assainir le milieu. Et puis voilà, donc il n'y a pas à chercher les sorciers ou à chercher les partenaires extérieurs. Aujourd'hui, nous faisons une communication communautaire. On évite d'être très scientifique. Parce que la science aujourd'hui nous a amené à trouver qu'on a 14 maladies qu'on doit combattre. Mais la communauté doit crier tout haut. Chers décideurs, nous avons besoin de ces Congolais qui sont en train de se mourir. Pas parce qu'ils ont choisi de se retrouver dans les tropiques ou sous les tropiques, mais parce qu'ils n'ont que la RDC comme pays.
Tout à fait. Merci docteur. On va permettre à nos auditeurs maintenant d'intervenir et de poser leurs questions. Nous avons en ligne Blaise Saïdi à Toubou qui nous appelle de Kisangani. Bonjour Blaise Saïdi.
Bonjour, bonjour.
Et quel est Allô Blaise, on vous écoute.
Allô,
on vous écoute Blaise Saïdi, vous nous appelez de Kisangani. Quelle est votre question à nos invités?
Oui. Oui, je salue d'abord les invités. Voilà, je vais intervenir en disant ceci. L'éradication des maladies tropicales négligées d'ici 2030 dépendra principalement de l'engagement réel des gouvernements. du financement durable et de l'accès équitable aux soins de santé. Sans amélioration des conditions de vie, notamment l'eau potable et l'assainissement, les progrès risquent d'être fragiles. La réussite exige donc une action coordonnée, continue et inclusive. Permettez-moi, madame, de poser quelques questions aux invités.
Allez-y.
La première question.
Oui.
Les programmes de lutte contre les MTN, c'est-à-dire maladies tropicales négligées, sont-ils suffisamment intégrés dans le système de santé primaire? La deuxième question, comment assurer la transparence dans la gestion des fonds destinés à ces maladies? La troisième question, que se passera-t-il après 2030 si certains objectifs ne sont pas atteints? Et pour citer, comment mesurer concrètement les progrès réalisés d'ici 2030? Je me limite à ce niveau-là, madame.
Donc, merci Blaise Saïdi Chatoubou depuis Kisangani, docteur Kachelewa.
Merci beaucoup. Je vais me faire compléter par docteur Diane. Je commence par dire ceci. Blaise, merci beaucoup. Déjà, quand vous en parlez, nous, ça constitue un grand plaidoyer pour mobilisation des ressources. Hein. Et puis, on ne va pas seulement regarder le gouvernement national central. Mmh. On a aussi des gouvernements provinciaux qui sont des entités administratives décentralisées qui peuvent initier certaines luttes au niveau local. Alors, nous commençons par dire les maladies tropicales négligées sont en cours d'intégration dans le système de santé, système national d'information sanitaire, le SINIS. C'est vrai, ils existent sur papier, mais aujourd'hui, vous savez que on a DHS2 qui est un logiciel de SINIS qui emporte toutes les informations et les MTN sont intégrés. Et aujourd'hui, on est, je pense, sans abuser, 23e province ou coordination. Je sais pas, docteur Dan va m'ajouter. Donc, on vous rassure que c'est déjà intégré et c'est en cours d'intégration pour toutes les 26 ou 27 coordinations. Alors, pour ce qui est de financement, bon, nous disons ceci. La gestion des financements ne va pas se faire je ne sais pas quelle magie. C'est tout un programme qui est élaboré dans le plan directeur. Ce n'est pas que les fonds vont être donnés à un programme solitaire. Non, c'est sur base de termes de référence, de plans d'activité opérationnelle que telle activité programmée en telle période sera mise en œuvre par tel programme. Parce qu'aujourd'hui, plus de 11 programmes, y compris le programme de santé mentale, se retrouvent avec leurs activités dans le plan directeur, dont on va parler pour arriver à éradiquer les maladies en 2030. Donc du coup, la gestion de ces fonds-là, si on en fait un débat aujourd'hui, ça risque même de faire peur à ceux qui vont donner. Donc il y a tout un système financier qui est mis en place que le ministère de la Santé pourra suivre de lui-même, de toute façon. Nous, on ne pourra pas... Donc il y a cette traçabilité. Je pense que docteur Diane peut compléter, puis je vais revenir aussi.
D'ici 2030, si on n'atteint pas ces objectifs, que va-t-il se passer?
Merci beaucoup, madame. Je vais revenir un peu sur ce que docteur Delphin a dit pour essayer de... Merci à notre auditeur de Kisangani. Ne vous en faites pas, comme docteur Delphin l'a dit, notre programme, les programmes de lutte contre les MTN-CTP est bel et bien intégré dans les systèmes de santé. Nous travaillons avec 29 coordinations au niveau de province. Donc il y a des provinces comme le Nord Kivu qui a trois coordinations. Et après les coordinations, nous travaillons également avec les zones de santé et les aires de santé jusqu'au niveau communautaire. Donc nous sommes bel et bien vraiment intégrés dans notre système de santé. Pour ce qui est de si jusqu'en 2030 les choses ne sont pas faites correctement, qu'est-ce qu'on va faire? Mais ne vous dérangez pas, monsieur, parce que nous faisons des enquêtes. Une fois qu'on implémente les traitements au niveau des zones de santé, au niveau de la communauté, il y a des enquêtes qui sont menées pour voir à quel niveau se situe la prévalence. Et nous sommes en train de mener des plaidoyers. Bien évidemment, il y a les partenaires, comme Dr. Defin l'avait dit, qui nous accompagnent depuis plus de 10 ans maintenant, à qui nous disons merci. On ne va pas s'arrêter là. Nous sommes là pour mener des plaidoyers. Le gouvernement est en train de nous suivre et va nous suivre derrière notre plan directeur. Et même si en 2030, il y a toujours les MTN qui continuent à déranger la population congolaise, nous allons continuer. On ne va pas s'arrêter. Il y a les partenaires qui sont avec nous. Nous sommes en train de mener les plaidoyers. Comme Dr. Delphin venait de le dire, les plaidoyers n'est pas que le gouvernement central. Il y a aussi les gouvernements provinciaux et toute autre entreprise privée et étatique. Donc,
Il y a même des églises hein, qui sont oui, engagées, nous avons qui accompagnent la lutte, par exemple, contre la lèpre. On en a vu des églises protestantes s'est cotisées, envoyer de l'aide aux malades ou visiter les malades de lèpre.
Effectivement, même aujourd'hui, dans la lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive, quelques financements qui sont donnés au gouvernement viennent des églises. Mm. Donc, peut-être on ne va pas se permettre de citer les noms, mm-hmm. sauf si vous le permettez.
Oui.
Voilà, les saints de derniers jours.
Exactement.
Ils soutiennent la lutte contre l'MTN en RDC, à chimiothérapie préventive, dans plus de 11-15 provinces. Voisin, c'est des églises. Donc aujourd'hui, on ne va pas seulement attendre le gouvernement. De toute façon, ceux qui meurent de l'autre côté, nous sommes sous la charge du gouvernement, mais quand nous mourrons, c'est nous qui mourrons et le gouvernement continue. Donc du coup, les mobilisations communautaires, les mobilisations des mélomanes, des mining, des entreprises, des boutiquiers, des motards, ils peuvent s'arranger. Ils se mobilisent et les ressources dont on a besoin dans la lutte, ce n'est pas seulement les ressources financières, même les ressources humaines. Ouais. Entretenir le marigot qui donne la schistosomiase, entretenir la forêt qui laisse passer les phlebotomus noguchi, les mouches tchétchées et autres là. Donc c'est parmi les actions qu'il faut mener.
Donc
qui...
la surveillance communautaire, l'implication de populations locales,
en fait, important.
C'est très important.
C'est très important. Pour compléter, docteur Diane, à la question du collègue de Kisangani, c'est que quand on dit éradiquer les maladies en 2030, ça ne signifie pas qu'on ne va plus trouver un microbe de ces maladies dans le pays. Mais on va quitter l'échelle des problèmes de santé publique à un niveau de contrôle. Les cas peuvent exister, mais on les prend en charge de manière prompte et rapide. Ce n'est pas qu'on ne va plus trouver des choses. On peut arriver à ce paradis RDC, paradis sans schistosomiase. On peut y arriver. C'est possible. Mais qu'on y mette de l'énergie ensemble.
On va rejoindre Dieu Merci Kabila, qui est à Manono, dans la province du Tanganyika. Dieu Merci, bonjour.
Allô?
Dieu Merci Kabila, allô? Bonjour. Vous nous appelez de Manono, dans la province du Tanganyika. Quelle est votre question quelles sont vos questions à nos invités?
Non, c'est Jean-Arthur Kabamba. À Kinshasa.
Merci Jean-Arthur, merci de nous rejoindre. Et quelles sont vos préoccupations?
Mes salutations à vos invités. Et puis, j'allais demander qu'est-ce qu'il faut faire pour appliquer ce plan directeur. Soit il faut booster le ministère de la Santé. C'est bien bon de passer à la radio pour vulgariser, mais il faut booster, écrire plus au ministère de la Santé, soit chercher un député pour lui donner ce plan directeur pour que le député puisse en parler à l'Assemblée. Puisque le gouvernement continue toujours à dormir, ce sont des maladies rares. On n'en tient pas compte, qu'on cherche un député pour essayer un peu de booster le gouvernement, pour que le gouvernement puisse former même les médecins dans nos centres habituels. Créer aussi des infirmeries dans nos écoles, enseigner aussi nos enfants, nos élèves, pour que les élèves comprennent et sache qu'il y a ces maladies tropicaux négligées. Alors, à la fin, on peut aussi nous donner leur numéro de téléphone. Je ne sais pas si c'est l'ONG ou sont seulement les médecins qui se sont tenus, qui ont le souci de parler de ça, je ne sais pas. Mais si on nous donne aussi un numéro de téléphone, on peut aussi les contacter au cas où on trouve ces maladies-là dans la cité, dans nos maisons, dans nos familles, là où nous vivons. Ça peut être aussi très important, mais quand même qu'ils cherchent au moins de passer à travers un député. Si un député parle ça à l'Assemblée, ça peut être quand même considéré par le gouvernement central.
Merci, merci Jean-Arthur Kabamba de Kinshasa. Docteur Diane, vous voulez répondre à ces préoccupations?
Merci Jean-Arthur, merci de nous contacter. Premièrement, le numéro, vous pouvez les avoir, il n'y a aucun souci. Nous sommes un programme bien établi, le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. Nous, c'est à CTP, et puis il y a il y a d'autres programmes qui s'occupent des différentes maladies. Il y a le PENELTA, il y a le PNED, il y a ceux qui s'occupent de NOMA. Alors, ce que je peux dire à Jean-Arthur, c'est que notre plan directeur, c'est le ministère de la Santé. Donc, ce sont les programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées qui l'ont élaboré avec le ministère de la Santé. Donc, c'est le ministère de la Santé qui l'ont élaboré. Nous l'avons déjà présenté au gouvernement. Mmh. Les plaidoyers continuent d'être menés, bien évidemment. Merci pour le conseil. On peut s'appuyer sur des députés et autres. On va utiliser tous les moyens possibles, raison pour laquelle on est là, pour que les plans directeurs soient vulgarisés. Mais moi, je voudrais vraiment qu'on mette aujourd'hui un accent sur la communauté. On voudrait que la communauté comprenne d'abord c'est quoi les maladies tropicales négligées.
Jean-Arthur a parlé de l'éducation, la formation.
Voilà. Donc, il y a une formation qui se mène déjà au niveau, qui se mène depuis plus de 10 ans, au niveau de chaque communauté. L'année passée, en 2025, nous avons élaboré de nouveaux outils de communication que nous allons vulgariser grâce à l'un de nos partenaires SiteServers, que nous allons vulgariser sur des chaînes de télé, sur des chaînes de radio. On va placarder dans les communautés, on va utiliser des colloques d'étudiants et de femmes ménagères.
Quand vous parlez de communauté, on peut se faire une idée de quel coin du pays, quel village, quelle province, par exemple? Vous avez parlé de décaissés tout à l'heure.
Alors, si je peux dire, la RDC a 519 zones de santé. Mmh. Et de ces 519, nous avons plus de 400 zones de santé qui sont endémiques à toutes ces maladies-là.
C'est presque partout.
Même à Kinshasa, nous avons des zones de santé endémiques. La zone de santé de Mbizao Zone, la zone de santé de Mongafula, Djili et autres. Mmh. Et même pour les zones de santé qui ne sont pas endémiques, comme Dr Delphin l'avait dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des malades qui se visent dans ces zones de santé-là. Mmh. Là où les programmes interviennent, c'est là où c'est un problème de santé publique. Mais dans les autres communautés, il y a ces maladies qui se visent. Peut-être que le docteur Delphin a les géosalmintias, mais ce n'est pas un problème de santé publique. Voilà pourquoi vous pensez qu'à Gombe, il n'y a pas ces maladies-là. Mmh. Donc c'est un problème sérieux qui est vraiment dans notre communauté. Et donc on ne peut pas vous sonder que c'est seulement décaissé. Ces maladies-là sont à Tchoudiloto, dans le Lomela. Ils sont à la zone de santé d'Idjui, au Sud Kivu. Ils sont également à Mbandaka Monieka. Donc c'est vraiment.
Et avec le mouvement des populations.
Avec les mouvements de population, ceux de Monieka quittent Monieka. Mm-hmm. Ils vont vers Kasumbalesa, ceux de Kasumbalesa quittent Kasumbalesa. Ils viennent au Congo central. Donc c'est un problème vraiment de toute la RDC. Mm. Et que toutes, on devrait être vraiment impliqués et vraiment se donner pour lutter contre ces maladies-là.
On se rend au Lualaba pour rejoindre Jeannot Louembe. Jeannot Louembe, bonjour.
Madame Jocelyne, je vous salue. C'est Jeannot Louembe. Louembe, hein?
Merci de corriger. Merci. Je sais noter.
Merci, Madame Jocelyne. Je salue les invités et les auditeurs. Merci du choix du thème. Déjà, ce qui m'a intéressé, moi, c'est l'intitulé qui est le maladie tropicale négligée. Mm. Négligée. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment intéressé. Bon, négligée, pourquoi? Parce que nous vivons d'abord, premièrement, où nous avons le malheur de vivre dans un pays sous-développé. En guerre, des guerres de partout, les gens se font tuer de partout. Et ces priorités attirent l'attention des officiels depuis des années, oubliant ainsi ces maladies qui tuent malheureusement le pauvre. Ce qui m'a encore été, qui a encore retenu mon attention, le pauvre. Si cela touchait aussi les officiels, les riches, je pense qu'on en parlerait beaucoup. Mmh. Dans le malheur que nous avons, c'est d'être dans un pays pauvre, plein de guerres, plein de tourments que nous connaissons, et c'est qui cache ou qui maquille un peu cette réalité de ces maladies-là qui tuent malheureusement les pauvres. Je poserai deux questions. Qu'est-ce que les pauvres ont? Bon, qu'est-ce que les riches ont, à part l'argent, qui fait à ce qu'ils ne sont pas des victimes, des victimes premières, comme avec le pauvre? Ça va aussi pareil avec le pays dont nous sommes habitants, le pays pauvre. Vous avez dit à la prise de votre parole, cher docteur, que le pays riche n'était pas touché par ces maladies ici, mais plutôt le pays pauvre comme le nôtre. Qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas, qui fasse que nous soyons des victimes premières à ces maladies, à ces maladies-là? Et la deuxième question, c'est, avez-vous eu le temps d'entrer en contact avec l'État ou que celui-ci ait une attention particulière vis-à-vis de cette maladie qui ne touche que de pauvres? Voilà mes deux questions. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur Jeannot Louimbouich, pour votre intervention. On va rejoindre également Esaïe Kandaï, qui nous appelle depuis, qui nous écrit depuis la ville de Kikwit. Esaïe Kandaï, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour aux invités, aux auditeurs de la radio Okapi.
Et quelles sont vos préoccupations?
En tout cas, merci beaucoup madame de m'avoir associé à ce débat. J'ai deux ou trois questions comme ça là que j'aimerais un peu poser aux invités. La première question, quelles sont les stratégies? Quelles stratégies sont les plus efficaces pour éradiquer durablement les maladies tropicales négligées dans les communautés rurales? Ma deuxième question, comment l'amélioration de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement peut-elle réduire la transmission des maladies tropicales négligées? Ma troisième question, quel rôle les gouvernements et les organisations internationales doivent-ils jouer dans l'accès au traitement contre les maladies tropicales négligées? Alors, j'aimerais terminer par une simple question, une question de curiosité d'abord, d'ailleurs. Qu'est-ce qui explique que certaines maladies tropicales soient-elles qualifiées de négligées? C'est ça mes quatre questions que j'avais.
Merci beaucoup Esaïe Kandaï depuis la ville d'Ekikwit, docteur Kachelewa. Que répondez-vous à nos auditeurs? D'abord Esaïe et puis on va répondre à Jeannot.
Bonjour cher Louemboué, je suis très content de votre question, c'était pile là-bas. Juste quand vous avez corrigé les noms, je me suis rendu compte que j'étais déjà en Mboulula, Congolo de l'autre côté, dans le voilà côté Niosou. Alors chez nous aussi c'est très fort ces maladies. Alors la question, votre préoccupation, elle est très fondée et vos observations sont bienvenues.
Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi la les différence, uns sont touchés et pas
voilà,
les autres?
C'est très simple. On vous a dit que c'est la maladie de la précarité, la maladie de la pauvreté et la maladie de l'insalubrité. Voilà la cause.
Mais on peut être pauvre et propre. Hein,
je parle de l'insalubrité. L'insalubrité, oui. Ce n'est pas la propreté corporelle.
C'est l'environnement.
C'est pas le parfum. C'est pas la lotion. C'est pas la coiffure. La propreté dont il est question, la salubrité, c'est l'assainissement de son environnement de vie. Mm-hmm. Je prends un exemple. Quand vous allez à Congolo, chez nous, en Mboulula, on mange l'encola. Vous savez l'encola?
C'est
les escargots.
Ok.
Les escargots. On n'a pas assez de viande. Bon, les escargots ont une bonne viande, hein, une bonne chair. Mmh. Mais mal cuit, il y a des schistosomes là à l'intérieur. Mmh. Chez nous, à Congolo. Quand on mange l'encola, mal cuit, ou mal assaisonné, par manque d'argent, par manque de sucre pour se trouver de l'huile et autre là, on en mange de la très mauvaise manière et on ingurgite les schistosomes qui vont être à la base de la bilharziose ou schistosomiase intestinale, neurologique, jusqu'à schistosomiase gynécologique ou génitale. Vous voyez ça? Donc, la plus grande raison qui fait de nous différents et très, très touchés, c'est l'insalubrité chronique, on ne va pas dire héréditaire, l'insalubrité chronique, hein, c'est ce qui fait que même Gombe est endémique à ces maladies et beaucoup des malades s'ignorent dans leur véhicule en fait. Et heureusement pour eux parce que voilà, quand les signes vont chercher à se manifester, directement ils passent en vol, ils allaient se faire soigner ailleurs. Vous voyez ça? Alors que nous, qui nous disons probablement pauvres aujourd'hui, n'avons pas l'occasion d'accéder même à une aspirine, même à un seul paracétamol. Donc la plus grande différence entre nous et les autres pays, c'est le manque d'entretien d'environnement qui nous maintient dans cet état de choses, et surtout le manque d'engagement communautaire. J'ai toujours dit, il est bien beau d'accuser les gouvernants, il est bien beau de pointer les décideurs, mais nous-mêmes qui décidons d'abord directement sur notre parcelle, qu'est-ce que nous faisons? C'est au fait ça la question. Nous-mêmes qui décidons sur le marigot dans lequel nos femmes vont puiser l'eau, nos enfants vont laver les assiettes, vont aller se baigner. Qu'est-ce que nous faisons en fait? Ça, c'est parmi les plus grandes questions à se poser. Mmh. Donc, je comprends. La seule différence que nous avons, c'est que nous entretenons l'insalubrité, la saleté et un environnement malsain qui favorise le développement, la floraison et la prolifération des germes ou de leurs hôtes. Mmh. Ouais, ça. Donc, voilà un peu la réponse que je peux donner au collègue Louembwe depuis Lualaba. Il y a l'autre préoccupation du collègue de Kikwit, qui a parlé, je voulais parler de trois, quatre petites
stratégies les plus efficaces.
Le plus efficace, c'est comme maladies. Je venais de le dire, docteur Diane va me compléter, c'est l'assainissement de l'environnement. Vous n'attendrez pas que le président de la République vienne curer le caniveau de votre parcelle. Mais ça, c'est malsain. C'est pas propre. Vous-même, vous payez les boîtes de pilchard, vous payez les boîtes d'eau et autres, là, vous buvez. Mmh. Et dans votre trachée, devant votre parcelle, vous jetez. N'est-ce pas?
Mais il y a un problème aussi d'évacuation des ordures dans la ville.
Avant qu'on voie le gouvernement, là, sur ce point, on doit être un tout petit peu sincère face à notre esprit et notre conscience. Est-ce que c'est le gouvernement qui m'a poussé à aller payer le pilchard? Non. C'est moi, mais parce que j'avais faim, n'est-ce pas? Et quand je mange, au lieu d'entretenir ma poubelle proprement bien dans ma parcelle, et brûler ou incinérer et autre là, je jette dans le caniveau devant ma maison, ou dans la petite bouse qui est à côté de chez moi. Est-ce que tout ça là, c'est la première ministre qui doit
nommer? Mais quand bien même on a des poubelles, qu'on les évacue, est-ce qu'il y a des endroits appropriés?
Le premier de geste, c'est d'abord de prendre conscience de la gestion,
dans les caniveaux.
De la gestion de ses propres saletés.
Oui.
Parce que ses propres saletés vont se transformer en agent pathogène ou en hôte pour amener les maladies. C'est la première question. Donc, la plus grande stratégie, c'est d'abord de se considérer soi-même comme si on était gouvernant de sa propre vie, de sa propre salubrité, et prendre soin de son environnement. Pas seulement le parfum, pas seulement les amis bilés, les propres, non, aussi son environnement. Quand vous mangez, quand vous faites comment. Et puis pour ce qui est de mobilisation des ressources, je reviens à une question d'un auditeur. En fait, le gouvernement, nous faisons un plaidoyer communautaire. Nous voulons que la communauté s'adjoigne à nous, s'associe à cette lutte. Le gouvernement a déjà ses documents. Les députés, ils ne peuvent pas attendre qu'on aille vers eux, parce que nous sommes leurs électeurs. C'est à eux de venir vers nous aussi. Ils sont à notre service, au fait. Je voudrais que la communauté comprenne ça. Tous qui sont gouvernants aujourd'hui, ils sont à notre service. Payés par nos impôts, payés par nos retenues sur ceci. Donc, du coup, ils nous servent. C'est pourquoi nous appelons la communauté à se réveiller. Pas à se révolter, on n'a pas dit ça. À se réveiller et à parler de maladies tropicales négligées aux chefs de quartier, au bourgmestre, au gouverneur, au maire de la ville, au ministre de la Santé et à tout le monde afin que le plan directeur qui est mis en place prenne la place prioritaire. C'est au fait ce qu'on veut. S'il faut qu'on amène un député et puis qu'il doit... Bon, écoutez, les députés sont en train de nous suivre. Pas plus qu'hier, j'ai reçu les coups de fil. Docteur, on vous a suivi sur telle chaîne. Mais c'est bien bon. Et puis on le fait parce que c'est notre travail d'éveiller la communauté à prendre soin de sa santé.
Merci, docteur Kachelewa. On va prendre docteur Christian Ekamba Mbole. Non, j'ai massacré ce nom. Ekamba Mbole, j'y arrive. Il nous appelle depuis l'Ituri, il est à Bounia. Docteur Christian, bonjour. Est-ce que docteur Christian est encore avec nous? Apparemment non. On va prendre Gentil Basué Kwamba. Gentil Basué Kwamba est dans la ville de Kananga. Bonjour monsieur Basué Kwamba. Monsieur Gentil, voulez-vous activer votre micro et baisser le son de votre poste récepteur s'il vous plaît?
Ok, bonjour madame. Bonjour monsieur à tout le monde qui m'écoute. Basué Kwamba, je suis depuis la ville de Kananga.
On vous écoute.
Au moment où l'on parle de l'éradication des maladies tropicales l'été depuis 2023, permettez-moi de poser quelques préoccupations liées à notre réalité de la salle centrale.
Allez-y.
dans le contexte spécifique de Canada et du Cap central, quelles sont aujourd'hui les maladies tropicales maîtrisées les plus répandues? Et dispose-t-on des statistiques récentes sur les ampleurs? Deuxième question. Malgré les campagnes de distribution de médicaments organisées ces dernières années, pourquoi ces maladies continuent-elles à persister dans nos communautés? Troisième question. Les manques d'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement à Kananga ne constituent pas un obstacle majeur à l'éradication des maladies? Quatrième question pour terminer. Les zones rurales autour de Kananga sont-elles réellement couvertes par des programmes de prévention et de traitement des masses? Sinon, qu'est-ce qui bloque? Cinquième question.
Non, non, on va arrêter là parce qu'il y a d'autres, il y a d'autres auditeurs qui attendent. On va prendre, ça fait quatre questions quand même, ça fait beaucoup. Il y a d'autres personnes qui attendent en ligne pour poser aussi leurs questions. On va répondre au docteur Christian Ekamba Mbole qui nous appelle depuis l'Ituri.
Oui, bonjour Madame Kelly, bonjour à nos auditeurs de la radio Kapi, même à l'évité. Bon, nous, comme moi, je suis docteur aussi aux médecines traditionnelles naturelles dans notre pays. Bon, moi, je vais défendre toute l'épidémie qui sait que ça se passe dans notre pays. Nous devons être sensibilisés, nous les guérisseurs, surtout nous les docteurs, médecines traditionnelles dans notre pays, comme Elina Cheko, ce sont des grands guérisseurs de notre pays. Et moi, je le suis apparemment. Ah, nous devons être ensemble. Nous devons développer notre médicament par rapport à la politique comme les États-Unis, la Russie, la Chine, par rapport aux épidémies. Qui sait que ça se passe dans notre pays? Nous devons être sensibles et aussi de développer notre médecine à toutes les épidémies qui doivent venir dans notre pays, comme le corona, comme l'Ebola, comme de quoi, des virus, beaucoup ce que ça se passe dans notre pays. Et moi, je suis capable de s'éliminer ça. Mais nous devons être à la main par notre gouvernement de la République et par notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il doit nous appuyer, nous, comme les INAGECO, comme moi, je suis docteur médecin traditionnel. Mais le médicament, ça se passe toujours ici dans notre pays. Ça ne se sent rien ailleurs.
Merci.
Nous devons être sensibles.
Merci, docteur Christian Ekanga Mbole. Docteur Kachelewa, est-ce que vous associez la médecine traditionnelle à cette lutte, hein? Parce que c'est auprès de ce praticien que beaucoup de gens, que la population recourt, hein, pour se faire soigner des mbassou ou voilà d'autres maladies. Est-ce qu'ils sont quand même saisis d'une certaine manière, parce qu'ils font partie de la communauté et d'une partie de la solution à ces problèmes?
Merci beaucoup, cher Jocelyne. Cher Mbole,
Ekanga Mbole,
depuis beaucoup de respect à notre médecine traditionnelle. On sait qu'aujourd'hui, le système sanitaire reconnaît leur place. Et nous, en tant que praticiens et programmatiques, nous reconnaissons leur place. Est-il que, c'est vrai, chaque fois qu'il y a échec des diagnostics dans la médecine moderne, ou chaque fois qu'on essaie de rendre métaphysique quelque tout chose qu'on n'a pas pu, par moyen ou par connaissance, on s'est réfugié derrière certaines superstitions et autres. Et pourtant, on reconnaît que même le paracétamol est fabriqué à base de plantes médicinales, qui sont en RDC. Tous nos tradis praticiens sont capables de faire quelque chose. Est-il qu'ils ont besoin d'être regroupés, exactement, et coordonnés par le ministère de la Santé? Mais pour ce qui est de la lutte contre ces maladies tropicales négligées, reconnaissant que nos grands-parents se sont fait soigner dans l'ancien temps avec la médecine traditionnelle, mais il s'est fait que les camps ont continué, les gens continuent à mourir. C'est sans vouloir mettre en doute le potentiel ou les capacités. Seulement, nous souhaitons que la prise en charge soit à l'échelle qui répond à la hauteur des cas détectés dans la communauté. Parce que, voilà, la médecine traditionnelle, effectivement, elle a les atouts, mais s'il faut hospitaliser 20 personnes qui font l'éléphantiasis déjà compliqué. Quels sont les contextes d'hospitalisation ou des prises en charge? Et quels sont les dosages de tous ces médicaments? On ne met pas en doute, mais on conseille
s'ils ont la possibilité, qu'ils continuent à faire monter leur voix jusqu'à l'organe régulateur. Mmh. Parce que c'est pas nous, pratiquement la radio, qui allons prendre le devant. Nous défendons ici la conscientisation des décideurs des communautés pour la prise en charge des maladies tropicales négligées.
On va répondre à Gentil qui nous a appelé du Kasaï et qui veut savoir, qui veut connaître les MTN qui sont les plus répandus.
En vogue au Kasaï, voilà. Docteur Diane, vous allez prendre la parole. Je veux juste le faire rire un peu. C'est Gentil Baswekwamba.
Oui, oui.
C'est-à-dire.
il veut parler.
Ils veulent, pardon, ils aiment parler. Oui. Voilà. Baswekwamba, c'est un coucou qu'on te fait.
Il a parlé, hein.
Voilà. Effectivement, Baswekwamba, jusqu'à la fin, vous l'avez là. Alors, ce qu'on veut dire, c'est que si vous allez à côté de Bianchi, hein, derrière Bianchi, il y a un ravin et il y a la rivière chez Lewis et de l'autre côté. Ces marigots-là est infesté déjà de escargots contenant la bilharzio. C'est déjà infesté. Derrière Bianchi. Quand vous quittez côté Bianchi, vous allez côté Kamboté. Nous sommes à Kananga toujours, hein. Côté Kamboté, Saint-Louis, il y a encore d'autres marigots qui sont pratiquement infestés de ces maladies. Bref, docteur Tien va me compléter. Plus de 510 zones de santé sont endémiques aux maladies tropicales négligées. Mmh. Plus de 510 sur les 519. Mmh. Si c'est pas la schistosomiase, c'est les géoélémentiases. C'est pas les géoélémentiases, c'est l'oncocercose. Donc du coup, il faille comprendre que on doit mettre ensemble toutes les énergies. Docteur Diane peut me compléter.
Et malgré la distribution des médicaments, il dit pourquoi il y a persistance de ces maladies dans le Kasaï.
Merci Madame Julie. Il faut dire qu'il y a cinq.
Moi, c'est Jocelyne.
Jocelyne. Il y a cinq stratégies que l'OMS. Il y a cinq stratégies de lutte. Il y a la distribution de masse de médicaments. Il y a la lutte antivectorielle, comme on a dit. Il y a la prise en charge de cas. Il y a les WASH qui doit suivre et autres. Docteur Delphin l'a déjà dit. Il faudrait qu'on mette l'accent sur le WASH. Mais il y a aussi une chose qu'on doit souligner. Monsieur, notre auditeur de Kanangaske, c'est comme quand vous avez le paludisme. À l'époque, on prenait la quinine. Et il faut le prendre pendant 7 jours, 3 fois 500 comprimés, ça dépend de l'âge. Et pour ce qui est de l'oncocercose, un exemple que je donne, qui est une des maladies tropicales négligées, malheureusement, les firmes pharmaceutiques n'ont pas encore développé une molécule qui peut faire arrêter, je vais parler vraiment en français de commun mortel, qui peut faire arrêter l'oncocercose dans un an ou deux. La molécule qu'on utilise, l'ivermectine ou l'émectisant, couramment appelé l'émectisant, ne peut traiter que pendant 15 ans. Donc, c'est après 15 ans qu'on vient mener des enquêtes pour voir si oui ou non les choses se sont arrêtées. Mais il n'y a pas que la distribution de masse de médicaments. Voilà pourquoi Dr Delphin a insisté sur l'insalubrité. Mmh. Il y a d'autres stratégies qui accompagnent cette distribution de masse.
Et surtout l'assainissement de l'environnement.
L'assainissement de l'environnement et autres.
On va se rendre à Bukavu, au sud Kivu, pour prendre Éminent Mwanda. Bonjour. Il n'est plus là, Patty Maïmba depuis Bandundouville. Bonjour Patty Maïmba. On l'a plus non plus. Et on va prendre cette préoccupation d'Honoré Chibouaboua qui nous écrit de Mbujimaï. Il dit que, je vais vraiment le lire, hein, moi je pense qu'au-delà de toutes les initiatives qu'on peut entreprendre, il faut une prise en charge intégrale de ces maladies par le gouvernement, car moi j'ai vu des cas suspects de l'ulcère de Bourly ici sur la ville, mais les concernés veulent recourir à la la médecine traditionnelle, parce que à l'hôpital, ça coûte cher.
Effectivement, c'est parmi les maladies tropicales négligées à prise en charge de cas, il y a l'ulcère des Buruli, le Noma, il y a la trypanosomiase humaine africaine, il y a la dengue, il y a la lèpre, il y a la leishmaniose, il y a la rage canine, il y a plus de 12 maladies tropicales négligées. Maintenant, imaginez-vous, ça c'est en Mbujimayi. Maintenant, allons à Kanyabayonga, c'est comment? Descendons à Manono, il y a un auditeur qui a voulu appeler des Manono. Ça, c'est comment? Alors, du coup, on vous dit que c'est un problème de santé publique, qu'effectivement, nous étions dans les discussions avec le coordonnateur de la couverture santé universelle. Le plaidoyer avec le programme allait dans le sens que, dans le package de prise en charge de la couverture santé universelle, que les maladies tropicales négligées et leurs molécules constituent le paquet essentiel minimum de base. C'est un plaidoyer qu'on est en train de faire. Mmh. Raison pour laquelle le faire aux médias comme ça, sur une chaîne, demande à ce que toute la communauté s'approprie cette lutte. Mmh. En parler sur les réseaux sociaux, en parler dans la communauté, écrire des messages. Comme ça, ça va atteindre tout le monde. Et le plan directeur qui est déjà disponible, qui définit les stratégies pour chaque pathologie, comment elle va être prise en charge, peut être mise en contribution et puis on avance.
Merci, c'est donc votre conclusion, docteur Delphin Kachelewa, docteur Diane Kaningini. Merci d'avoir répondu à notre invitation et c'est donc la fin de cette première partie de Capi Service.
Au Capi Service.
Mesdames et messieurs, bienvenue à la deuxième partie de l'émission Au Capi Service. Comment encourager les filles dans les filières STEM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. C'est le thème que nous abordons avec Madame Thérèse Kirongozi, ingénieure, initiatrice de Woman Technologies et conceptrice de robots roulage. Madame Kirongozi, bonjour.
Bonjour madame.
Pour participer à cette émission, chers auditeurs, vous pouvez nous contacter au 085 42 11 547. 085 42 11 547. Paul Badianyama est à la mise en onde, Benjamin Moudoumbi à la réalisation sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Jocelyne Moussaoufondé.
Miroir, un programme hebdomadaire de demi-heure sur la sensibilisation aux valeurs de société et de vivre ensemble. À suivre sur Radio Okapi, tous les mercredis à 8h30 en rediffusion le jeudi à 20h de Kinshasa.
À l'ère du numérique, de l'innovation et de l'intelligence artificielle, les filières STEM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques jouent un rôle clé dans le développement économique et social des pays. Pourtant, en République démocratique du Congo comme ailleurs, les filles restent encore largement sous-représentées dans ces domaines. Stéréotypes de genre, manque de modèles féminins, orientation scolaire biaisée, autocensure ou encore accès limité aux outils technologiques, les obstacles sont nombreux et apparaissent souvent très tôt dès le parcours scolaire. Face à ces défis, une question s'impose. Comment encourager davantage des filles à s'orienter et à réussir dans les filières STEM? Quel rôle doivent jouer la famille, l'école et la société? Et comment valoriser les parcours des femmes qui ont réussi dans ces domaines pour inspirer les générations futures? C'est donc le deuxième thème de cette deuxième partie de Capi Service. Madame Thérèse Kirongozi, ingénieure, initiatrice de Woman Technologies et conceptrice des robots roulage, on l'appelle d'ailleurs affectueusement Maman Robot. Elle est engagée dans la promotion de la formation technologique et de l'innovation. Rebonjour Madame Thérèse Kirongozi, dites-nous pourquoi d'abord on observe encore une faible présence des filles dans ces filières STEM en RDC.
Merci beaucoup Madame Céline. Moi je crois que c'est question de sensibilisation et d'encouragement. On doit commencer d'abord par la base, c'est la famille. Si nos parents arrivent déjà dès le bas âge à apprendre à nos enfants, comment nous pouvons plus encourager? Parce que vous devez savoir qu'il y a des familles où on peut dire que tous les enfants sont des jeunes filles, où il y a des familles aussi qui a beaucoup plus de garçons, où je sais pas trop, il y a des mélanges comme ça. Mais néanmoins, chaque famille, à la base déjà, étant donné que la science n'a pas de sexe, si nous les parents, nous commençons à encourager déjà nos enfants de leur dire qu'il faut plus aller dans le domaine porteur des richesses, étant donné que nous sommes avec la révolution de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de métiers qui vont devenir obsolètes. C'est à nous, les parents, de savoir bien orienter dès le bas âge nos enfants. Pourquoi un enfant peut aller faire des études pour finir chômeur? Je me pose toujours la question. Et comment un enfant qui a fait des études pour finir pauvre ou malheureux par rapport à l'âge adulte? Donc, c'est-à-dire que l'orientation de les bas âges dans nos familles, ça, nous sommes quand même quelque part, nous les parents, comme responsables.
Mais est-ce que on doit les encourager parce que on découvre en eux des atouts, des forces, ou bien seulement parce que on veut aussi que les filles s'intéressent à ces domaines?
En fait, comme on dit toujours que c'est nous les parents qui remarquent les atouts, parce que Dieu a donné des compétences à tout le monde. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est à nous de découvrir quel est le talent, quelles sont les compétences que mon enfant doit développer. Et aujourd'hui, quand nous parlons de STEM, les gens disent, ah non, ça c'est la technologie, ça c'est l'IA. Moi, mon enfant va faire peut-être science infirmier, peut-être va faire la coupe et couture. Ça ne sert à rien de l'encourager de là. Or que c'est faux. Aujourd'hui, le STEM est transversal dans tous les domaines. Je peux te donner un exemple. Mm-hmm. Vous êtes couturier. Aujourd'hui, pour faire peut-être avant, bon, moi je voyais ma mère, elle avait fait un peu la coupe et couture. C'était le modèle de patron qui, ils avaient des papiers comme ça. Elle appelait ça patron. En fait, c'était comme des moules, comme nous à l'ingénierie on appelle des moules qui le permettaient de faire la modélisation de ce qu'elle va coudre. Mais aujourd'hui, avec la 3D, vous entrez dans l'internet, mm-hmm, ou dans les systèmes des data, mm-hmm, vous devez concevoir vous-même avec 3D votre modèle et ça vous donne des précisions. Donc, si vous remarquez que l'intelligence artificielle doit être dans toutes nos activités de notre vie. Mm-hmm. J'étais dans une réunion de l'intelligence artificielle au Maroc. J'étais étonnée de voir que un jeune guinéen qui est en train de développer une application. Rien qu'avec votre salive que vous jetez dans votre smartphone, mm-hmm, ça peut lui permettre de voir des maladies basiques, de simples maladies, en fait, et qui peut déjà salive arriver à vous diagnostiquer, mm, des maladies et comment prescrire le médicament. Mm-hmm. Donc, dans les jours à venir, comme je viens de dire tout à l'heure, il y a beaucoup de métiers, si nous ne faisons pas attention, soit nous remettons nos enfants qui deviennent encore plus pauvres, ou soit nous les mettons pour être riches.
Donc on doit les encourager à embrasser des filières qui seront porteuses demain, qui sont très demandées, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle et du numérique. Mais à quel moment, Madame Kirongozi, à quel moment du parcours scolaire, hein, les filles commencent-elles à se détourner des sciences et des technologies? Pourquoi ce rejet? Pourquoi cette réticence des filles?
En fait, moi je trouve, Madame Jocelyne, c'est plus, on va plus parler de manque d'encouragement et le manque de modèle. Écoutez, moi je suis née dans une famille où mon père travaillait à l'ONATRA. Et je disais toujours à mon père que si je vais faire les études d'ingénieur pour venir travailler à l'ONATRA, parce que je voyais comment l'entreprise était en train de s'écrouler. Ah mais non, pas du tout. Et après, je viens de finir les études, mon père est décédé. Étant donné qu'il était ingénieur, Et ses amis, ils voyaient ça normal. Vous savez comment ça se passe dans notre pays. Pour les amis de mon père, de dire que bon, viens quand même, on va faire des démarches pour que tu remplaces ton père, parce que comme toi-même aussi tu es ingénieur. Mais ils étaient étonnés de dire, mais non, moi je n'ai pas fait mes études d'ingénieur en électronique industrielle pour venir rester dans le même niveau que mon père. Donc voilà, moi je crois qu'avoir de grandes visions, c'est-à-dire c'est plus le parent qui doit encourager. Et le modèle, on doit aussi avoir le rôle modèle. Mais nous, peut-être, à notre époque, moi, j'ai fini mes études il y a presque, si je peux dire, 25 ans passés. Mais il y avait pas beaucoup de rôle modèle. Mais au moins, des jeunes filles d'aujourd'hui peuvent prendre comme Raïssa, peuvent prendre comme Clarisse Falanga, peuvent prendre autant de femmes comme des rôles modèles qui peuvent dire que non, elle est stable, elle est mariée, elle a sa famille. Elle est riche et elle est capable de faire tout ce que moi je peux envier et je dois suivre ses rôles pour que demain je sois aussi une femme capable d'être ingénieure, d'être data analyste ou quoi que ce soit et puis que j'arrive à bien vivre.
Mais est-ce que c'est parce qu'on trouve des cours hein, difficiles, on a peur d'affronter ces cours dans les filières des sciences? Est-ce que cette réticence ne vient pas de là aussi?
Pas nécessairement, Madame Jocelyne. Moi, je crois qu'il y a des recherches qui ont prouvé qu'une jeune fille, si vous mettez dans les mêmes conditions de vie un jeune garçon et une jeune fille qui évoluent dans le même contexte, dans les mêmes conditions de vie, la fille développe plus de l'intelligence sur les STEM qu'un garçon. C'est la recherche qui a prouvé.
Ok. Pourquoi observe-t-on encore une faible présence des filles dans les filières STEM en RDC? Nous recevons Madame Thérèse Kirongozi, qui est ingénieure. Pour participer à cette émission, composez les 085 42 11 547. Nous allons prendre un auditeur en ligne, Ruffin Bonceau, qui nous appelle depuis Likassi. Bonjour Ruffin.
Journaliste Jocelyne Moussao. Je profiterai de cette opportunité pour saluer la savante congolaise Thérèse Kirongozi. Pour moi, j'aimerais juste encourager les filles d'embrasser des sciences ainsi que des facultés liées vraiment à la mathématique, par exemple. Pour qu'elles parviennent à développer notre pays. Parce que le développement d'un pays ne doit pas vraiment tomber sur les épaules des hommes. Les femmes doivent aussi emboîter leur pas pour que nous puissions vraiment faire de notre pays, la RDC, l'Allemagne d'Afrique. Parce que ça ne doit pas se passer à l'aide d'un coup de bâton magique. Nous devons nous mettre au travail. Les femmes ne doivent pas suivre les mauvais conseils en provenance de X ou Y qui doit parler que non, n'allez pas là-bas, il y a, moi je ne sais pas, beaucoup de formules mathématiques, ceci, cela. Non. Oui, elle doit y aller. Elle a une tête. Elle a été créée par Dieu, au même titre qu'un homme. Oui, parce que si nous prenons l'exemple de Madame Thérèse Kirongozi, ce qu'elle est en train de faire pour notre pays, je crois bien, elle me dépasse même moi, un homme Ruffin Bonceau Ibantou. Là, je dois être vraiment reconnaissant de ce bienfait multiple à l'aide des robots, qu'elle est en train de nous créer de presque partout en termes de roulage, vous voyez. Ça nous aide beaucoup. Même ici à Likassi, nous en avions fort malheureusement, et il s'est abîmé. Mais je suis sûr et certain que peut-être un jour, elle va intervenir pour faire quoi pour les réparer. Vous voyez, c'est comme ça. Il n'y a pas seulement Madame Thérèse, mais nous voyons souvent les gens, les femmes blanches vivant en Europe, aux États-Unis et presque partout. Elles sont en train d'emboîter les pas. Donc, les femmes congolaises ne doivent pas dormir. Elles
Merci.
Doivent ouvrir l'œil.
Merci, Rufin Abonso.
Elles vont développer notre pays. Elles vont développer même la vie de leurs enfants. C'est un peu ça. C'était ça ma préoccupation.
Merci pour votre intervention, Rufin Abonso. Vous encouragez les filles à embrasser les filières STEM, de ne pas avoir peur des chiffres, d'aller vers les mathématiques, parce que les maths sont vraiment la base du développement. On va rejoindre Éminent Mwanda qui revient pour cette deuxième partie de l'émission. Éminent nous appelle depuis Bukavu au sud de Kivu.
Allô, bonjour madame.
Bonjour monsieur Éminent Mwanda. Bonjour à tous
les... Oui, bonjour madame, bonjour à l'instant et à tous les auditeurs de Radio Capier.
Oui, votre question s'il vous plaît.
Oui, je voulais commencer d'abord par des recommandations, puis chuter aux questions, si vous voulez me permettez.
Allez-y, s'il vous plaît.
Ma première recommandation est la sensibilisation et l'éducation pour encourager les filles dans des filières d'ingénierie mathématique. Il y a d'abord organiser des campagnes de sensibilisation et des ateliers pour présenter les carrières en ingénierie mathématique aux filles et aux femmes. Il y a le mentorat, il y a aussi un environnement d'apprentissage inclusif. Il faut aussi créer des opportunités de bourses et de stages. Et dernière recommandation, c'est le rôle de modèle féminin. Présenter des modèles féminins dans le domaine de l'ingénierie mathématique pour inspirer les filles et les femmes. Cinq questions m'intéressent, trois pour ne pas monopoliser la parole. Premièrement, sensibiliser les filles et les femmes à l'importance des mathématiques et de l'ingénierie. La deuxième question, monsieur, madame plutôt, comment créer un environnement d'apprentissage inclusif et encourager, plutôt, et en encourageant les filles et les femmes dans ce domaine-là. La troisième question pour Chité. Comment offrir des opportunités, des mentorats et des soutiens aux filles et aux femmes dans ces domaines? Parce que en mettant en œuvre ces recommandations, Madame Jocelyne, nous pouvons encourager davantage les filles et les femmes à poursuivre des carrières en ingénierie mathématique et contribuer à réduire l'écart des genres dans ces domaines, j'ai dit.
Merci beaucoup, Éminent Mwanda. Vous nous appelez depuis Bukavu. Madame Kirongozi, comment offrir des opportunités de mentorat aux filles pour les encourager à embrasser ces filières?
Merci beaucoup, Madame Jocelyne, pour la question et je remercie aussi l'auditeur. À mon humble avis, ces questions, le mentorat, c'est plus par rapport à l'encouragement du développement communautaire. Et puis, nous devons savoir que une jeune fille, quand elle est en train de faire quelque chose, même si elle a échoué, vous devez toujours l'encourager et lui faire des critiques, de dire que prochainement, il faut le faire ceci, il faut faire cela. Et je crois que ce modèle de mon autorité que nous cherchons, ça va être très compliqué. Et c'est très complexe parce que on peut bien faire des campagnes, comme l'auditeur vient de dire, on peut sensibiliser, mais la plus grande question, ça reste au niveau de rôle modèle et comment encourager ces rôles modèles par rapport aux ce qu'ils ont déjà fabriqué. Est-ce qu'ils y trouvent des marchés? Je viens de parler par rapport à l'ONATRA tout à l'heure. Pour vous dire que il faut que le modèle soit encouragé. Il y a des femmes comme Madame Yanjo qui est en train de se battre. Je connais son projet, ça fait plus de 15 ans. Comment nous pouvons arriver à faire du pain à partir de base de au moins de manioc, de farine de manioc. Mais est-ce qu'elle a déjà des laboratoires depuis qu'elle a commencé son projet? Il y a autant de femmes de la science qui sont en train de se battre. Il n'y a pas seulement Madame Thérèse Isaïe Kirongos qui est en train de battre sur la sécurité routière. Aujourd'hui, nous nous plaignons chaque jour par rapport aux embouteillages quand nous sommes sur nos routes. Et quand nous rentrons à la maison, c'est comme si on a oublié que demain, tant que nous n'avons pas trouvé une solution, on va faire la continuité de nos plaintes.
Et donc, il faut
si
que les
on arrive, excusez-moi madame de finir mon élocution, si on arrive à aller dans les universités, prendre la problématique, explique aux jeunes filles ou aux jeunes garçons comment trouver la solution, on met le moyen pour que ça soit des sujets aujourd'hui par rapport peut-être au travail de fin d'année de pour avoir peut-être un diplôme. Et ça sera des rapports constructifs par rapport à notre communauté. Et c'est là où, parce que la science doit contribuer par rapport au développement communautaire. Nous ne devons pas faire la science. Le contexte aujourd'hui de l'Europe ou des États-Unis, ce n'est pas le contexte de la RDC. Comment, jusqu'au 21e siècle, nos parents arrivent toujours à faire le champ avec la houe? C'est la technologie de nos ancêtres et nous le trouvons normal jusqu'à aujourd'hui.
Ça n'évolue pas.
On n'évolue jamais. Comment nos pirogues que nos ancêtres, c'était leur propre technologie de l'époque qui nous ont laissé et nous le trouvons normal que jusqu'à aujourd'hui, je sais pas comment on l'appelle, à Lingal, on dit Kolukankai, et jusqu'à aujourd'hui, on le fait dans le même modèle. Donc, nous devons d'abord, au lieu de chercher des technologies aussi compliquées, cherchons tout d'abord à la technologie où les STEM contribuent par rapport au développement communautaire. Il y a des milliers qui n'ont pas d'accès à l'eau potable. Est-ce qu'il faut que les Européens nous envoient des chlores et des sulfates pour traiter de l'eau, pour que l'eau devienne potable? Est-ce qu'on n'a pas d'autres modèles qui existent, que nous pouvons appliquer? Et voilà pourquoi, là où nous parlons que la science doit être le socle du développement d'un pays.
Et vous disiez tantôt que les modèles féminins qui sont dans ce secteur doivent être accompagnés, doivent être soutenus. Vous avez parlé de Madame Thérèse, Madame Yangzhou, qui travaille dans, qui mène des recherches hein, pour ajouter la farine de manioc dans la production de pain. Vous êtes vous-même initiatrice de robots roulage. Il vous faut de marché, il vous faut des opportunités et cela peut attirer d'autres filles à s'intéresser à ce domaine. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne, Jean-Arthur, qui nous appelle depuis Kinshasa. Jean-Arthur, rebonjour. Jean-Arthur s'est déconnecté. On va prendre entre-temps Dieu merci Kabila depuis Manono dans le Tanganyika. Vous êtes là, Dieu merci. Dieu merci non plus n'est plus avec nous. Madame Thérèse Kirongozi, à part les opportunités qui manquent, peut-être le soutien au modèle féminin, quels sont les autres obstacles majeurs que les filles rencontrent hein, lorsqu'elles veulent s'engager dans les filières STEM?
Je vais expliquer. Je peux donner à l'université. Il y a aussi, si je peux dire, le manque de Fab Lab qui vont permettre aux jeunes filles d'aller plus dans la pratique de ce qu'ils sont en train de prendre. Moi, quand j'étais à l'ISTA, il y avait beaucoup de choses que nous avons pris seulement en théorie. Et puis, c'est pour pratiquer, c'était un peu compliqué. En fait, c'est le système des LMD, je crois, ça a échoué par manque des systèmes pratiques.
Des conditions d'apprentissage, pas d'équipement, pas de laboratoire, pas d'accès au numérique. Exactement. Peut-être.
Exactement.
Et quelles sont les actions concrètes, hein, quelles actions concrètes peuvent être mises en place dès l'école primaire et secondaire, par exemple, pour susciter l'intérêt des filles pour les STEM?
Ça, c'est, si je peux parler des politiques gouvernementales qui doivent mettre en place. Moi, j'étais au Japon pour une formation et j'ai vu le modèle. Il m'a beaucoup étonné de voir qu'à l'âge de 6 ans, on donne déjà aux enfants le modèle de jouet qui peut fabriquer le robot, qui peut fabriquer des véhicules, les consorts. Mm-hmm. En fait, tout ça, ça demande tout un système de commencer d'abord par, si je peux dire, recadrer le système éducatif qui va demander beaucoup de moyens. Mais j'ai beaucoup sillonné, hein. Je suis allée à Miami dans une formation et j'ai vu que le système de donner aux enfants aussi, il y a des écoles où ce sont des écoles privées et qui sont là seulement pour faire ce que le système éducatif général n'arrive pas à le faire. Ça aussi, peut-être ceux qui aiment bien entrer dans le monde de l'entrepreneuriat des écoles privées peuvent aussi suivre comme le modèle. Au lieu que nous arrivons à voir nous tous de même filière, vous entrez dans une école, vous allez voir littéraire, biologie, c'est presque le même modèle.
Et qui sont pas forcément adaptés aux besoins actuels, hein?
Exactement, pas l'emploi. Vraiment aux besoins de l'emploi aujourd'hui. Donc, parce que nous devons savoir que d'ici 2030, il faut nous poser des questions. Il y a beaucoup de métiers qui vont devenir obsolètes. Je suis en Europe, quand j'entre dans un supermarché, il n'y a plus de caissière. Quand vous êtes dans une banque, il n'y a personne qui vous allez travailler qu'avec des machines. Et quels sont les métiers porteurs de richesses que nous pouvons aujourd'hui aider nos enfants à suivre comme filière? C'est ça, nous les parents et le système éducatif qui doivent quand même chercher à faire la mise à jour.
Adapter le programme scolaire pour répondre aux besoins réels du marché. Comment encourager les filles dans les filières STEM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques? C'est le deuxième sujet de notre émission au CAPI Service. 085 42 11 547 est le numéro, notre numéro de téléphone. Si vous voulez participer à cette émission, nous avons encore en ligne, Dieu merci Kabila, qui est revenu. Il est à Manono dans le Tanganyika.
Bonjour Radio Okapi, bonjour Okapi Service.
Bonjour, Dieu merci Kabila.
Oui. Par rapport à ce sujet, c'est un sujet très important. Vous voyez, dans le milieu rural, il y a un problème de sensibilisation. Nous vivons encore dans la tradition, il y a vraiment un combat sérieux entre la modernité et la coutume. Dans la tradition, nos mamans, nos papas pensent encore qu'il y a des filières qui sont vraiment destinées aux filles. La fille ne peut pas faire la technique, par exemple la mécanique. Moi, je dirige une école. Nous avons lancé même un message pour que le pied fasse même l'électricité générale, mécanique et générale gratuitement. Mais je me suis retrouvé dans la classe de première avec une seule fille. Et nous continuons, ça commence avec une seule fille, il y a d'autres filles qui vont emboîter les pas avec les années à venir. Donc ce qu'il faut, c'est plus, beaucoup plus la sensibilisation. Je peux rappeler notre ministre de l'éducation nationale, C'est l'an passé qu'il avait fait la déclaration que nous allons encourager beaucoup de filles à faire les filières techniques. Mais là, aujourd'hui, la filière technique qui reste pour les filles, c'est seulement la coupe et couture. Mmh. Et donc, dans nos milieux ici, chaque parent, il faut au moins amener la fille. Vous allez trouver dans la coupe et couture, c'est comme si c'était la seule filière pour les filles. Donc, le gouvernement doit donner les moyens donc au chef des sous-divisions pour sensibiliser que même les filles ont droit à des filières techniques comme électricité, comme mine, comme d'autres filières, pas seulement la coupe et couture, pas seulement la pédagogie.
Merci.
Et j'ai dit merci à la radio Capi. Et par la suite, la radio Capi, vous nous avez coupé le signal à Manon depuis le départ de la Monisco. Même aujourd'hui, nous travaillons avec relais d'une radio communautaire qui est en train de relais radio Capi 24 sur 24 heures. Vous avez des bons programmes que la communauté aime dans nos milieux.
Merci beaucoup, adieu, merci Kabila, c'est noté, et la direction technique vous a suivi. Merci beaucoup. Nous allons prendre Mathia Lumbombo qui nous appelle depuis Bandundouville. Bonjour Mathia.
Bonjour madame. Bonjour à l'ingénieur Kilongozi. Vraiment, c'est une bonne, très très bonne opportunité pour que je puisse un peu aujourd'hui la remercier de tout ce qu'elle a fait comme travail. Et la première que je peux poser à madame, elle qui est une génie, quel est l'état congolais pour la soutenir? Dans lequel on peut développer un pays? Est-ce que notre
gouvernement... On a du mal à vous suivre, hein. Mathia Lumbombo, malheureusement. Essayez un peu de vous déplacer, hein. Essayez un peu de vous déplacer. Peut-être ça va améliorer la qualité de votre appel. Vous demandiez ce que fait l'État congolais pour soutenir Madame Kirongozi.
Oui, déplacer. Pour les gravement la civilisation.
Malheureusement, on a du mal à vous suivre, hein, mais si je vous capte, vous parlez de la sensibilisation, vous parlez de l'appui de l'État congolais aux initiatives comme celle de Madame Kirongozi. Madame Thérèse, que fait l'État congolais pour soutenir votre initiative?
Merci beaucoup, Madame Jocelyne, pour la question qui est un peu complexe. Donc, qu'est-ce que je peux répondre dans ça? C'est la communauté qui doit remarquer. Vous allez voir, j'en profite de l'occasion pour parler du fait des signalisations que vous pouvez remarquer il y a une semaine que nous avons installé au niveau des 14e rue et première rue limitée.
À Kinshasa.
Parce que de moi-même, notre bureau de Women's Technology, ça se trouve en... J'ai beaucoup de la peine pour quitter Njili, pour rentrer au centre-ville, là où il y a ma résidence. Et j'ai remarqué que les deux nœuds, il y en a beaucoup de nœuds, hein. Mm-hmm. Quand nous quittons 14e, même au niveau du 16e rue, Saint-Louis, Saint-Raphaël, et tout ça pour arriver au centre-ville, c'est très compliqué. Alors, je me suis dit, avec mon équipe, est-ce qu'au lieu seulement de fabriquer le robot, qui est un peu complexe, qui demande beaucoup de moyens, on ne peut pas faire des feux de signalisation aussi simples, qui peut aider nos agents de plage, même s'il y a l'embouteillage dans un autre endroit, on peut les démonter rapidement et les ramener là où il y a des embouteillages pour réguler la circulation. En fait, notre souci est que d'essayer avec toute humilité d'aider notre communauté avec l'intelligence que Dieu nous a donnée. Et c'est à l'État aussi de faire sa part. Donc, nous sommes pas là pour juger. Nous avons besoin des aides de l'État. Nous avons besoin que l'État arrive à encourager pas seulement mon entreprise ou Women's Technology, mais de voir aussi des femmes qui doivent jouer le rôle modèle. Pourquoi aujourd'hui toutes les femmes aiment bien faire la politique? Parce que c'est facile, ils voient des rôles modèles, que tu étais rien, aujourd'hui tu es devenu député, tu as une jupe, tu achètes une maison, mais ce n'est pas ça qui va être le fondement ou de socle durable du développement d'une nation. On doit développer une nation avec la science. Comme je viens de donner l'exemple aujourd'hui, si nous travaillons avec le modèle de recherche fondamentale pour changer le modèle d'agriculture, de transformer nos produits selon nos contextes, nous savons que dans notre pays, nous sommes limités par rapport à l'énergie électrique et il y a beaucoup des soucis par rapport au développement. Et je crois qu'il faut que le gouvernement joue son rôle de descendre sur le terrain, de voir quelles sont les femmes qui se battent pour le bien des communautés, que ce soit dans des villes urbaines, que ce soit dans des provinces les plus profondes. Et c'est là où il va encourager les jeunes filles de dire, si elle a réussi, et moi aussi, je dois réussir. Nous devons être fiers. Aujourd'hui, Elon Musk, elle est l'homme le plus riche à partir de la science. Ce n'est pas à partir de la politique. Donc, est-ce qu'on ne peut pas prendre ce rôle modèle pour transmettre dans notre pays de savoir que non, le vrai développement d'une nation commence par la science.
Merci Madame Kirongozi. Il y a Dieu merci Kabila qui a intervenu tantôt et qui disait que les parents, hein, ils pensent que certains parents estiment que certaines filières ne correspondent pas aux filles. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Madame Kirongozi, est-ce que vous êtes avec nous? Je disais tantôt que Dieu merci Kabila, qui intervenait tantôt depuis Manono dans les Tanganyika, pense que certains parents estiment que certaines filières ne correspondent pas aux filles. Que dites-vous par rapport à cette façon de voir de Dieu merci Kabila?
En fait, je peux répondre à cette question pour dire que, en fait, ce sont des stéréotypes qui ne font pas avancer un pays. Donc, aujourd'hui, nous les parents, nous devons changer de modèle, de voir des choses autrement. Parce que même à notre époque, là je parle toute une génération qui est passée entre moi et des jeunes filles d'aujourd'hui, même nos parents, c'était compliqué de dire que non, comment tu vas faire maths physique, comment tu vas faire ceci. Mais je crois que nous évoluons et que des jeunes filles, même si on les dit que vous n'êtes pas capables, elles doivent être tenaces, elles doivent prouver que ce que vous dites de moi, que je ne saurais pas aller dans les STEM, c'est faux. Elles doivent prouver par rapport à ses compétences.
Nous allons prendre Ismaël Moupoi qui nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour Ismaël.
Bonjour, Céline Moussa Opondé. Bonjour à Madame.
Votre préoccupation, Monsieur Ismaël Moupoi, nous vous écoutons.
Pour le franc, pour commencer par une initiative de l'école. De l'école primaire, on commence.
Apparemment, nous avons des soucis de liaison à notre niveau. Nous allons retenter de vous contacter, Monsieur Ismaël Moupoi. Entre-temps, nous continuons avec notre invité qui est aussi au bout du fil et nous espérons que la liaison, la qualité de la liaison téléphonique est restée bonne avec Madame Thérèse Kirongozi, notre invité. Comment encourager les filles dans les filières STEM, sciences, technologie et ingénierie et mathématiques? C'est le sujet de cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Madame Kirongozi, quel rôle jouent les initiatives comme la vôtre, hein, Woman Technology, dans l'accompagnement des jeunes filles?
Merci beaucoup, Madame Jocelyne. En fait, nous essayons quand même de faire quelque chose par rapport au programme des STEM. Chaque vacances, nous invitons plus les parents de nous amener les enfants, surtout plus les jeunes filles, de venir dans les camps des STEM, parce que nous avons un Fab Lab au niveau des Njili quartier 1. C'est là où nous apprenons les enfants comment faire le coding, fabriquer le robot et aller plus aussi dans la transformation des matières premières. Comment nous pouvons, parce que aujourd'hui nous parlons toujours que nous avons des matières premières, mais si on n'apprend pas à nos enfants comment les transformer, on restera toujours en train de dire que les Occidentaux sont en train de prendre nos matières premières pour les transformer. Et nous-mêmes, nous devons savoir qu'on peut tout nous donner, mais on ne nous donnera jamais la science. Donc, ce sont des initiatives privées comme ça, que nous faisons quand même les efforts. C'est compliqué parce que nous n'avons pas de sponsors et surtout que beaucoup de parents aussi n'arrivent pas à comprendre quel est l'intérêt qu'un enfant pendant la période des vacances, au lieu qu'elle reste à la maison, de venir participer dans des camps de STEM. Et c'est ça qui va lui permettre d'être un peu créatif, si je peux dire, par rapport à la révolution de l'intelligence artificielle actuellement.
Donc par là, vous dites que le secteur privé et les entreprises technologiques ont un rôle à jouer, hein, dans l'encadrement et le mentorat des filles.
Exactement.
Nous allons prendre Jean-Arthur qui nous appelle depuis Kinshasa. Rebonjour Jean-Arthur.
Oui, bonjour Madame Jocelyne, bonjour aussi à l'invité.
Oui, votre question.
Moi je pense, l'idée, ce que Madame vient de dire qu'elle avait trouvé au Japon, à l'âge de 6 ans, on donne des jouets qui peut initier un enfant ou une fille à faire la technique. Je pense que cette idée-là est très bonne. Alors, la ministre de l'Éducation nationale peut aussi augmenter ou ajouter au lycée là où les filles étudient, puisque la plupart de nos lycées, il n'y a que des filières littéraires, scientifiques, pédas. Mais on peut ajouter aussi des filières comme électricité, mécanique, menuiserie. Alors, ce sont des filières qu'on peut ajouter aussi aux écoles et aux lycées, là où il n'y a que des filles. Alors, qu'on les donne, même dans nos maisons, il y a d'autres travaux qu'on refuse de donner aux filles, on dit, si vous avez que des filles, pour même changer l'ampoule, vous demandez à un garçon du quartier qui vient changer l'ampoule, mais tandis que dans la maison il y a des filles. On peut vulgariser ça aussi, à apprendre des filles dès leur bas âge, à monter des échelles, à changer l'ampoule, à permettre.
Merci Jean-Arthur, on l'a perdu, mais on a capté l'essentiel de son message, de son intervention, intégrer ses filières dans les lycées, encourager les filles à embrasser les filières STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Madame Thérèse Kirongozi, quel message pouvez-vous adresser à ces parents qui hésitent encore à orienter leurs filles vers la technologie, vers les sciences?
Oui, Madame Jocelyne, par là, je peux dire que Nous ne devons pas faire étudier nos enfants et après, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. C'est à nous les parents, étant donné que les études coûtent cher, qu'on soit quand même conséquent de dire que non, quand j'accepte que mon enfant arrive à voir ça comme le métier du futur, et je sais exactement ce qu'il va devenir. Parce que le contexte de notre pays aujourd'hui, nous avons plus besoin de créateurs d'emplois que de chercheurs d'emplois. Regarde seulement le taux de chômage des jeunes. Aujourd'hui, combien de jeunes ont fini leurs études, mais ils n'arrivent pas à être compétitifs dans le monde des créations d'emplois et consorts. Ou combien des études qui sont faites, mais quand vous allez dans un autre pays, vous refaites encore le parcours éducatif. Je me pose toujours des questions. Donc, c'est à nous de voir, de bien comprendre. Soit, je sais ce qu'il faut faire, étant donné que nous avons déjà compris que beaucoup de métiers vont plus exister d'ici 2050. Et comment faire pour que mon enfant, que j'ai accepté de dépenser de l'argent pour faire sa scolarité, et que le métier qu'il doit faire, que ça soit vraiment porteur de richesse. On ne peut pas aujourd'hui, dans le 21e siècle, prendre les études comme une bergerie. Bon, on ne sait même pas ce que mon enfant va faire, qu'elle part déjà, et qu'elle part pour me laisser tranquille. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre avec toute humilité le rôle que nous, les parents, nous devons jouer sur nos enfants.
Les orienter vers les métiers porteurs, vers les métiers du futur.
Les créateurs de richesses.
Et qu'est-ce que vous conseillez à cette jeune fille qui est quand même passionnée de science, mais découragée par son entourage?
De tenir bon, c'est pas facile du tout. Quand l'environnement ne vous encourage pas, c'est de tenir bon. Je peux donner l'exemple d'une jeune fille que j'étais partie sensibiliser à une école à Bandundu. Et j'ai trouvé une fille, Glody, dont son père était médecin, qui venait même de décéder à la même période. Et elle était l'unique fille qui a fait l'école technique à son école. Mais elle était découragée parce que son père était décédé, elle savait plus quoi faire. Et j'ai dit à sa maman de nous donner cet enfant parce qu'on l'avait trouvé très intelligente. J'ai amené la petite à Kinshasa. Elle habitait dans l'une des membres de sa famille. Et aujourd'hui, je suis fière de Glody. Elle est ingénieure. Elle a fini ses études à l'Institut supérieur technique appliqué. Et c'est elle qui nous aide pour la fabrication de tout ce qui est les systèmes embarqués dans nos robots. Et c'est l'encouragement seulement peut-être qui manquait pour elle, mais aujourd'hui je suis fière d'elle. Donc c'est à nous de voir, même dans nos quartiers, si vous avez un peu de moyens, vous trouvez que des jeunes filles qui veut faire le STEM, qui manque de possibilités, essayons quand même de les aider. C'est pour le bien de notre communauté. Donc, voyons dans le milieu, surtout très reculé de la ville, de rassembler des enfants, des jeunes. Parce que la science n'a pas de sexe. Excusez-moi, Madame Jocelyne, j'arrive pas à faire la différence entre un jeune garçon et une jeune fille par rapport à la science.
Dans les domaines de la science.
Parce que pour moi, je trouve que la science, tout le monde est capable, et surtout les jeunes filles sont plus capables parce qu'on est un peu très concentré, on maîtrise un peu des choses, on peut faire plusieurs choses à la fois. Donc, c'est à nous, pas seulement le parent, mais la communauté aussi, les églises surtout, parce que nous sommes plus liés à nos églises, que ce soit le pasteur, de changer de modèle, de voir des jeunes filles et de donner plus l'accent sur le développement communautaire va commencer par la science. Ce n'est pas un péché.
Nous allons prendre un autre auditeur au bout du fil, Gentil Basso Ekwamba, qui nous appelle depuis Kananga. Bonjour, Gentil.
Oui, madame. Je me reste seulement pour s'il vous plaît, par rapport à...
Décidément, c'est notre ligne téléphonique qui a un souci. On sait pas, on sait plus avoir nos auditeurs en ligne. Malheureusement, on va finir entre nous, hein, Madame Kirongozi. Heureusement que votre ligne est encore limpide. Alors, Maman Robot, comment créer des passerelles entre formation, innovation et emploi pour les jeunes filles?
En fait, c'est un peu compliqué parce que je reste plus dans le contexte de la RDC. Il n'y a pas d'abord beaucoup d'entreprises, je peux dire ça, qui évoluent dans le numérique. Tout ce que je peux essayer de donner comme conseil aux jeunes filles, de chercher plus à créer leurs propres entreprises, des services ou des innovations. Donc, parce que le pays est encore, par rapport à la nouvelle technologie, on est vraiment, si je peux dire, on est encore vide. Donc, je vois beaucoup de jeunes filles maintenant qui emboîtent des pas par rapport au marketing numérique, à data analysis. Mais qu'on ne reste pas seulement dans ça, parce que il faut plus regarder le contexte du pays et de voir ce que nous manquons et comment faire du challenge pour dire que non, ce que nous manquons, est-ce qu'on ne peut pas le fabriquer sur place? Comment je peux faire développer ma communauté avec des besoins idéaux? Et je crois que c'est juste cette question, ça te permet de dire, je vais créer ma propre entreprise.
Madame Kirongozi Thérèse, un mot en lingala, hein, à ces jeunes filles qui nous suivent, intéressées par les sciences, mais découragées par l'entourage, les parents qui sont hésitants, et lokoni ni tokoro loba na baboti, toba na basi oyo, balingi tope balingi te ko sa la science technologie ko za ba ingénieur pe ko sa la mathématique pe to ko souki sa na liloba moko na ba robot roulage quand même to yambi maman robot na émission na biso.
Merci beaucoup madame Jocelyne. Na ki ko loba goye na moko la lelo to za na besoin mingi ya biso bana na biso ya basi oyo bazwi déjà diplôme d'état bakende plus na domaine ya science ya technologie pour na raison moko raison ezali ke bosenga ya ba entreprise soki lingo sa na ba entreprise ezo senga mamingi na batu oyo ba sali filière wana musala na yango ezali mwa mingi parce que lelo tozo tanga classe kaka poto tanga te. Tozo tanga klasi po lobi epe sa biso musala oyo eko permettre toza la na valeur na miso na bato. Alors toza na pasi na biso ezali ke toboyi ke biso ba jeune fille tosi si klasi toza na diplôme mais toza la raté. Alors tomi tout na question pourquoi toza la raté? Toza la raté po na domaine o toponi soit batu baza déjà belé ba koki na ba entreprise soit biso to kené na domaine oyo baza ko senga batu mais na domaine wana batu bazalité.
Donc au souk sawana maman Thérèse Kirongozi tango na biso e koki, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir partagé votre expérience et merci aussi à vous chers auditeurs d'avoir participé à cette émission. À la prochaine.